Vu d'ailleurs, avec Mario Barr.
Bienvenue à Vu d'ailleurs, très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par Aide à l'Église en détresse, organisme international de charité catholique qui soutient les chrétiens persécutés, opprimés ou en situation de très grande pauvreté dans plus de 140 pays. Et ce, depuis plus de 70 ans. Alors, on a de l'expérience, on a de l'âge et on continue. Et pour faire connaître cette Église, bien sûr, nous avons des gens avec nous qui soit sont sur le terrain ou qui ont été sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est l'un d'entre eux qui est maintenant directeur du Centre Africa à Montréal depuis le mois d'août 2017. Il écrit également de Huffington Post quelquefois. Il est né à Latuc en 1955. Il a grandi et poursuivi ses études collégiales universitaires à Trois-Rivières. Engagé avec la Société des missionnaires d'Afrique depuis 1981, il a obtenu un diplôme en missiologie au Missionary Institute of London, en Angleterre, rien de moins, et a été ordonné prêtre en 1987. Il a vécu en République démocratique du Congo, au Malawi et au Zambie, et depuis juin 2017, il est de retour au Canada. Serge Saint-Arnaud, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter l'invitation.
Merci, ça me fait plaisir.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, puisque vous en avez fait un sujet d'étude il y a quelques années, à Londres, rien de moins, j'ai dit, parce que quand même, c'est prestigieux quand on parle.
Oui, bon, j'ai fait quelques études en Angleterre il y a déjà longtemps, c'est dans les années autour 1985-87, et c'est en fait des cours en anthropologie. Bon, j'étais à ce moment-là jeune étudiant chez les missionnaires d'Afrique, j'étais en formation, j'avais vécu déjà 2 ans au Congo, mais à l'époque ça s'appelait le Zaïre, de l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko. Bref, ça a été 2 années fort intéressantes et ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses que j'avais vues sur le terrain sans vraiment me rendre compte. Et je pense que les études que j'ai faites là-bas m'ont permis d'ouvrir mes horizons dans cette approche de, on pourrait dire, l'inculturalité ou l'approche des autres cultures avec un regard très ouvert, très positif qui m'a énormément aidé.
Mmh. Un regard qui donc est un peu et très différent même du regard que d'autres missionnaires, vos ancêtres pères blancs, oui. Vos ancêtres collègues avaient sur la mission. Parce qu'on se souvient qu'il y a un certain temps où la mission était presque également liée au colonialisme dans sa pensée.
Et évidemment, on se rapporte à une époque au moment de la fondation des missionnaires d'Afrique, donc les Pères Blancs.
Il y a 150 ans cette année.
Il y a 150 ans cette année. L'idée, c'était d'aller proclamer l'Évangile sur les territoires africains, mais il y avait aussi, dans l'esprit de notre fondateur, le cardinal Lavigery, un souci très, très important de comprendre et de vivre au diapason avec les populations où les missionnaires étaient envoyés. Mais en même temps, ça correspondait à l'époque coloniale. Donc, la dissociation entre l'un et l'autre n'a pas été si simple. Il est évident qu'il y a eu des collaborations dans certains pays entre les missionnaires catholiques, Pères Blancs, et le gouvernement colonial. Mais vous savez qu'avec le temps, les choses ont changé radicalement. Et au moment de l'indépendance de l'ensemble des pays africains, là, on a compris la différence entre blanc et blanc. C'est-à-dire, les missionnaires étaient majoritairement des blancs européens, mm-hmm. mais ces gens sont restés sur place au moment où les troubles ont commencé, ou disons, il y a eu des périodes très difficiles, en particulier au Congo où j'étais. Et contrairement à beaucoup de blancs, disons, des coloniaux qui ont quitté souvent les pays où ils étaient, les missionnaires sont restés. Alors, j'aimerais peut-être vous raconter une petite histoire là-dessus.
Oui, allez-y.
Quand j'étais justement dans la région de Bounia, au nord-ouest du Zaïre à l'époque, pas très loin de la frontière de l'Ouganda, il y a eu une guerre civile qui a commencé, une guerre tribale. Et c'était très, très difficile dans le sens qu'il était pratiquement impossible d'avoir des informations précises sur la situation. dans une société où les moyens de communication sont très rudimentaires, les rumeurs deviennent vérité. Alors moi, j'étais dans une paroisse qui s'appelle Getty, ou environ 60 km au sud de Bounia, un coin très, très reculé, très difficile d'accès. Et nous étions trois missionnaires. Il y avait deux Canadiens et un Belge. Et nous avons décidé de rester, malgré les dangers réels, dans les informations à la radio, sur Radio France Internationale ou toutes les autres radios, et demander aux ressortissants européens de quitter le pays le plus rapidement possible. Il y avait un avion qui devait décoller à telle date à l'aéroport de Bounia. Alors moi, j'ai demandé à Franz, mon confrère, j'ai dit, moi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on reste. Mais j'ai dit, évidemment. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que quand les attaques ont commencé, les gens sont venus se réfugier à notre paroisse. Et puis, on a commencé à faire des convois humanitaires avec les quelques véhicules qu'on avait pour transporter les gens à risque, en sécurité, un peu plus loin, dans un territoire où ils avaient quand même plus de sécurité. Mais on prenait les gens qui étaient en danger de l'autre côté pour les ramener ici. Donc, en fait, on faisait des convois. Et tout ça pour dire que dans les moments de grande instabilité ou d'incertitude, la présence, notre présence a été quand même assez importante. Je peux pas. Enfin, évidemment, c'est pas nous qui avons solutionné le problème, mais nous avons pris partie prenante pour sauver des vies, sans pour autant prendre parti pour un côté ou l'autre. Et ça nous a été mentionné. Les gens étaient contents qu'on a été impartial. Mais je me rappelle aussi quand je transportais les gens à risque dans la voiture qui était bondée d'hommes, de femmes, d'enfants, il y avait un grand silence. Et là, je conduisais ma voiture, on était 3-4 voitures. Mais on aurait pu être attaqué n'importe quand sur cette route.
Ben oui.
Donc, on peut imaginer que, bon, c'est sûr, c'est pas l'endroit idéal pour vivre. Mais j'avais le sentiment que j'étais au bon endroit et que, advenant quoi que ce soit, c'était là où je devais être. Et une fois à Bounia, j'étais allé dans un petit magasin. Il y avait un jeune homme au comptoir qui était vraiment découragé. On avait, globalement, la population était déprimée, les gens étaient inquiets, les Blancs étaient partis, tous les Blancs étaient partis, les coopérants, les... Nous, on était restés, un petit nombre de Blancs, mais solidaires avec la population. Alors, juste au moment où je faisais quelques achats, il y a eu à Kinshasa des troubles, il y a eu des militaires français qui ont été tués. Alors, le garçon, dans la langue locale, on se met à parler, il me dit, vous voyez, là, même les militaires européens, français, sont tués à Kinshasa, nanana. Alors, j'ai bien senti qu'il était vraiment découragé. Alors, il me pose la question, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites encore ici? Alors, j'ai répondu dans la langue, j'ai dit, écoute, c'est pas le moment pour mon papa de quitter son enfant lorsqu'il est malade.
Mm-hmm.
Donc, nous sommes avec vous, nous sommes près de vous. Alors, en disant ça, il a relevé la tête, il a fait un sourire, et puis il y avait une jeune femme à côté qui aurait fait la même chose. J'ai la conviction que par notre témoignage, qui est très simple, qui était une fidélité à notre présence, bien, les gens ont quand même compris que nous étions, oui, de fait, des Blancs. Mais on n'était pas des Blancs comme les autres Blancs.
Vous n'étiez pas des coloniaux.
Et puis, une autre anecdote là, qui m'a profondément marqué, parce que quelques années plus tard, là, j'ai quitté le Zaïre à l'époque, en 1996, donc ça faisait une bonne dizaine d'années que j'étais là. Je connaissais très bien la population, je connaissais la langue, je connaissais les endroits. Puis, alors en fait, bref, les gens ont préparé une petite fête. En fait, c'était une assez grande fête. Pour me remercier, bon, le père qui s'en va, nanana. On avait travaillé très fort pendant plusieurs années pour construire une école secondaire, et puis bon, on avait quand même trimé très fort. Très proche de la population, j'avais participé à des rituels au moment de l'enterrement des chefs coutumiers. Enfin, bref, une expérience tout à fait extraordinaire. Si bien que quand je suis parti, comme j'ai mentionné, ils ont préparé une petite fête. Et là, est arrivée une grand-maman. C'était vers la fin de la journée. Alors, elle me regarde, elle me dit, vous savez, vous, mon père, il vous manque une chose, une seule. Je dis, ah oui? Elle dit, oui. Elle dit, tout ce qui vous manque, c'est la couleur de la peau. Donc, c'est-à-dire que là, la rencontre de l'autre, là, pour revenir au thème initial de l'émission, le respect fondamental des gens avec lesquels nous vivons.
Oui.
Je pense que ça, c'est le point fondamental. Il y a eu certainement dans l'histoire des erreurs commises, des missionnaires qui n'ont peut-être pas saisi l'importance de ce respect, mais pour moi, c'est fondamental. L'ouverture que j'ai développée grâce à mes études en Angleterre, ça m'a permis vraiment de toucher à un point fondamental dans la relation avec l'autre, enfin, une culture étrangère.
Oui.
Le respect des personnes. Et moi, ce que j'ai découvert partout où je suis allé en Afrique, ce respect, les gens le perçoivent. Et s'il n'est pas présent dans l'attitude du missionnaire, le missionnaire peut dire tout ce qu'il veut, il peut parler parfaitement la langue locale, il peut être très généreux, mais si les gens perçoivent qu'il y a un manque de respect, c'est fini. Alors que beaucoup de missionnaires qui n'ont pas fait grand-chose dans le sens de développement communautaire ou je ne sais trop quoi...
Qui ont été une présence, tout simplement.
Ils ont été présents, mais ils ont été non seulement présents, mais amoureux, respectueux des coutumes, des valeurs locales. Ces gens-là en parlent encore aujourd'hui.
Vous êtes toujours à l'émission Vie d'ailleurs et nous sommes en compagnie du père Serge Saint-Arnaud, qui est membre des Pères Blancs d'Afrique, lesquels célèbrent cette année 150 ans. Alors, il faut le souligner, bien sûr, il faut le dire, je pense que c'est très important. Et on parle aujourd'hui d'inculturation, de missiologie, des grands sujets qui intéressent beaucoup le père Saint-Arnaud, qui a étudié dans ces domaines. Je vous rappelle également que vous pouvez le lire. Il a un blog, en fait, sur HuffPost, le Huffington Post Québec. Une fois de temps en temps, d'ailleurs, le dernier porte sur l'épineuse question du contrôle des armes à feu aux États-Unis.
Oui.
Alors, vous vous prononcez sur un peu tout, là. Vous êtes dans tous les sujets. Mais, oui, Serge Saint-Arnaud, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais d'autres questions. Bien sûr que j'ai d'autres questions. Mais toujours lié, bien sûr, à cette fameuse missiologie, à cette fameuse inculturation également dont on parle. Vous avez dit un mot que j'ai beaucoup aimé. Être amoureux. Et ça, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Pourtant, c'est quelque chose qui est essentiel pour les missionnaires. Être amoureux, non seulement, bien sûr, on a le goût du voyage. J'imagine que vous avez toujours le goût de l'aventure, Serge Saint-Arnaud.
Je me considère pas comme un aventurier.
Non,
non, bon, pas vraiment. En tout cas, bien savoir où je vais, mais...
C'est quand même hors de l'ordinaire, ce que vous faites.
Oui,
là.
C'est sûr qu'il
y a beaucoup de gens qui vous diraient, moi, je serais pas très confortable de faire ce que vous avez fait.
Ben, moi, au contraire, là, je suis tellement heureux, tellement content d'être ailleurs. Moi, je me sens bien partout.
D'accord.
J'étais en Afrique, j'étais au Congo, j'étais au Malawi, j'étais en Zambie, j'ai appris le Swahili, j'ai appris le Tshitshewa, j'ai vécu dans des conditions parfois très difficiles, j'ai vécu en ville, à Lusaka. Peu importe où j'ai été en Afrique, j'ai toujours aimé ça. J'ai aimé ça parce que j'aime les Africains. Les premiers que j'ai rencontrés à l'époque, c'était à l'université à Trois-Rivières. Il y avait des étudiants étrangers, beaucoup d'entre eux étaient africains.
Dans les années 80.
Dans les années 80. Donc, à l'époque, c'était des gens surtout de Côte d'Ivoire. Enfin, et puis, déjà, mon ouverture au monde africain était présente. mais lorsque je suis allé en Afrique, je me suis senti déjà chez moi. C'est-à-dire, c'est un phénomène, je peux pas...
Ça, c'est un peu bizarre, pas. Quand non, même.
Ouais. Oui.
C'est pas le premier qui en parlait, d'ailleurs.
Ouais. C'est pas une chose qui peut s'expliquer de façon vraiment réfléchie ou rationnelle. Il y a un côté mystérieux, presque mystique là-dedans, je sais pas trop comment dire, là. C'est que là, est-ce que ça répond? Bon, tu sais, le fameux l'appel.
le fameux appel.
L'appel de Dieu.
Oui, oui.
Bon, en résumé, là, il faut faire ça rapidement, là, mais je dirais ceci. Depuis ma jeunesse, et ça s'est concrétisé dans mes études à l'université, dans mes relations, mon ouverture au monde africain, j'ai senti une attirance, un désir de mieux connaître le monde africain en général. Et puis, comme j'ai mentionné, quand j'ai finalement mis les pieds en Afrique, c'est sûr, il y a le choc culturel.
Mm-hmm.
Bon, je me rappelle très bien les premières impressions que j'ai eues. Je voyais, bon, les gens autour de moi, il n'y avait que des Noirs. C'est drôle.
Le seul blanc, donc sûr qu'on se sent un peu étranger.
Oui. Et puis, là, je me rappelle... On peut pas zapper à ce moment-là. Tu vois, devant une télévision, on zappe, là. On est des images. Mais là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de télécommande pour changer l'image. Là.
Il faut le faire face à son malaise et à sa nouveauté d'étranger.
Et puis, après un certain temps, bien, les choses vont mieux, on commence à dire des choses, à parler un peu, à s'exprimer. Et tout cet effort qui est fait pour aller à la rencontre de l'autre, nous revient. Ça m'est revenu au centuple, dans le sens que ça m'a permis de comprendre tellement de choses sur moi-même, sur ma propre culture, sur mes propres valeurs. Et je ne vais pas là pour imposer quoi que ce soit, pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent connaître, ce qu'ils doivent croire. La relation, c'est une relation d'échange. C'est-à-dire que le missionnaire est celui qui essaie d'entrer dans la perspective de l'autre, dans le regard de l'autre. Alors, tous les efforts que j'ai faits dans l'apprentissage des langues, les coutumes, vivre le plus près possible des gens, ça m'a permis cette ouverture du cœur, d'accueillir ce que les gens peuvent offrir. Donc, je ne suis pas, moi, quelqu'un qui vient dire... Moi, j'ai toujours eu le problème, moi. Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? J'ai toujours trouvé des choses à dire parce que mes inspirations sont toujours issues de mes rencontres, de ma relation avec les gens. Donc, je demande un peu les nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Et puis, il s'agit de s'inspirer de la vie. Bon, je donne un exemple. Quand j'ai commencé à comprendre la société secrète au Congo où j'étais, là, les Massadou, ce sont les gens qui sont responsables des rituels. Bon, j'avais participé à des rituels funéraires, j'avais même participé aux danses guerrières, et bon, c'est toute une histoire, c'est un peu long.
Ah oui, d'accord. Ah oui, oui.
Alors bref...
Ça devait être intéressant.
Bah, c'était
dommage qu'on n'ait pas de photos, là.
Ben, en fait, j'en ai.
Ah oui, d'accord.
Je te montrerai ça un autre jour.
Oui, d'accord.
Mais ce que je veux dire... qu'est-ce que je voulais dire?
Parler des Massadou, là.
Ah oui, les Massadou! Alors, là, les Massadou... Alors, c'était drôle parce que quand le chef est mort... J'arrive le matin à une chapelle pas loin, et là, ils me disent, vous savez, mon père, on ne peut pas célébrer la messe aujourd'hui. Le chef est mort. Ah, ben, j'ai dit, désolé, là, mais enfin, qu'est-ce qui nous empêche de prier? Ah, ben, il dit, non, il n'y aura personne. Ben, je dis, c'est pas grave, moi, je vais prier pareil, là. Puis j'ai dit, on va aller prier sur le terrain. Là, on va aller voir... Il dit, non, va pas là. Dit... Fait que là, après la prière, là, bon, ils offrent à manger un petit peu du boucali avec un peu de sauce, là. Enfin, bref, j'ai dit, moi, je vais aller voir ce qui se passe. Alors, j'arrive là, c'était la colline voisine, puis il y avait la petite maison au sommet, puis il y avait un grand monsieur qui était là. Il y avait personne. Alors, je m'assois sur un petit banc, et puis, bon, les choses, il faut quand même qu'elles soient lentes. Hein? Je veux dire, faut jamais précipiter les choses.
Hein? Non,
alors, je m'assois, puis là, j'attends. Bon, on attend, puis là, le monsieur est là. Bon, j'ai dit, oui, à propos, est-ce que les Massadou sont déjà ici? Est-ce qu'ils sont arrivés? Il dit, comment ça, tu connais ça, toi? Ben, j'ai dit, ce que j'ai entendu parler, là, j'ai... Ben, il dit, c'est moi le Massadou. Je dis, ah ouais? Il me dit, veux-tu voir comment est-ce qu'on fait ça? Ben, j'ai dit oui. Il dit, OK. Fait que là, il a demandé aux gens de sortir les tambours. Ils ont commencé à attraper les tambours. Et là, les cérémonies ont commencé avec les danses guerrières et tout le reste. Bon, il faudrait une autre émission pour en parler. Bref, ce que je veux dire, c'est cette rencontre vers ouais. l'autre, entrer dans la perspective de l'autre, entrer dans l'imaginaire de l'autre, voir les choses à sa manière pour pouvoir développer cette relation d'intimité qui permet aux missionnaires d'avoir une parole significative. Alors, si bien que quand je prêchais puis que je disais, vous savez, j'ai rencontré l'autre jour les Massadou, oh, les gens m'écoutaient.
Ah oui,
ils
d'accord.
m'écoutaient. Ils disaient, ah, vous savez des choses, vous. J'ai dit oui, parce que j'ai cette ouverture. Puis là, finalement, le message que j'avais à dire, j'ai dit, écoutez, moi, je suis un étranger. Je ne peux pas vous dire, parmi toutes vos cultures, l'ensemble de votre patrimoine culturel, là, je ne peux pas vous dire, moi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est bon, que vous devriez modifier. Mais c'est à vous de le faire.
Oui,
c'est ça. C'est-à-dire, vous avez les instruments, vous avez la connaissance pour savoir, parmi l'ensemble de votre patrimoine culturel, qu'est-ce qui est compatible avec les valeurs évangéliques et bien, ou bien qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'entrer dans votre vision des choses, puis peut-être que je pourrais apporter une parole. Mais soyez certain que c'est avant tout vous-même qui devez le faire. Parce que si on parle d'évangélisation, on parle d'amener la parole de Dieu au cœur du vécu d'une culture. Mais c'est sûr que le missionnaire est toujours un étranger. On va s'approcher d'une certaine connaissance de la culture, mais le travail fondamental est fait par les Africains eux-mêmes. Mais si on leur donne confiance en disant « Dans votre culture, il y a des belles choses, il y a des choses extraordinaires, il y a des choses qui sont vraiment en lien avec l'Évangile, le respect des personnes âgées, n'importe quoi. » Bon, bref, ben mettez ça en valeur. Vous n'avez pas besoin d'un missionnaire étranger pour vous le dire. Mais par contre, il y a peut-être des éléments, là, ici, à gauche, à droite, que vous devriez vous poser des questions. Ben, je pense qu'à ce moment-là, ça, c'est le respect.
Mm-hmm.
Alors, quand les gens perçoivent que, en fait, le missionnaire n'est pas là pour juger une culture, pour juger l'attitude des gens ou leurs valeurs, mais pour essayer d'apporter un éclairage dans un vécu, ben là, la relation est possible.
Voilà.
Reste que quelques instants pour cette émission de Vue d'ailleurs en compagnie de Serge Saint-Arnaud, qui est père blanc d'Afrique. Il est également directeur du Centre Africa à Montréal depuis 2017. Père Serge, vous êtes allé donc en Afrique, vous étiez surtout sur le continent africain, un continent qui depuis 150 ans connaît la présence des pères blancs. Est-ce que les pères blancs sont toujours très présents en Afrique présentement?
Oui, certainement.
Plus que jamais?
Ben, plus que jamais, c'est-à-dire qu'il se passe présentement une chose assez formidable, c'est que nous avons énormément de nouvelles vocations. Nous avons au-delà de 500 jeunes en formation pour devenir missionnaires d'Afrique et des jeunes qui sont africains eux-mêmes. Et ils ont épousé l'esprit des missionnaires d'Afrique, qui est, en fait, nous sommes une communauté internationale et interraciale. Donc, nous vivons dans des communautés mixtes, on peut
d'accord.
dire. Alors, si bien qu'on prend des jeunes du Malawi, on les envoie comme missionnaires au Burkina Faso, on prend des Burkinabés, on les envoie au Malawi, enfin, on les voit. Mais c'est la même attitude, c'est le même esprit que les premiers missionnaires d'Afrique d'il y a 150 ans, mais maintenant, c'est davantage des Africains eux-mêmes, avec un certain nombre d'Indiens de l'Inde qui se joignent à nous. Ce sont là c'est là le bassin de vocation que nous avons pour le moment. Parce que, bon, en Europe et en Amérique, c'est sûr que le nombre de missionnaires diminue, mais il est en forte augmentation sur le territoire africain.
Donc ça, c'est intéressant. Donc, le chapeau s'est renversé. On avait plusieurs missionnaires blancs et maintenant, ce seront des missionnaires qui viendront de d'autres continents qui ont été missionnés, si je veux dire, cultivés jusqu'à un certain point. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir de la mission dans le monde? Vous avez parlé de cet amour, de cette inculturation, de cette présence. J'aime beaucoup le mot fidélité de présence. Est-ce que c'est toujours ça, en fait, qu'il faut mettre de l'avant pour la mission évangélique? Parce que, dans le fond, on fait de la mission autrement aujourd'hui, mais c'est toujours l'évangile, le même évangile qu'on propose.
Ben, vous avez tout à fait raison. Puis maintenant, avec la présence d'Africains qui deviennent missionnaires d'Afrique, bien, c'est comme un complément à notre 150 années de travail missionnaire qui a toujours été orienté vers la rencontre. Et la rencontre, ça veut dire, c'est la rencontre avec, ça peut être avec l'islam, ça peut être, parce que nous aussi, on a quand même un certain nombre
en
de
Algérie, confrères.
Oui, d'abord, on était fondé en Algérie.
Voilà.
Donc, bref, tout ce qui est l'ouverture à l'autre, la rencontre de l'autre dans un esprit de respect et d'amour, je pense que c'est ce qui caractérise les missionnaires d'Afrique. Et les jeunes missionnaires africains s'inscrivent dans cette dynamique et on va les voir éventuellement venir ici et transmettre et poursuivre le charisme du cardinal Lavigerie, notre fondateur.
Voilà. Serge Saint-Arnaud, je rappelle, vous êtes missionnaire chez les Pères Blancs d'Afrique et donc vous y êtes depuis en fait les années 80. Vous avez passé plusieurs étapes, parti en mission sur la terre africaine, au Congo, Malawi, Zambie, et vous êtes maintenant directeur depuis août 1987 du Centre Africa qui est situé à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, tout près du lieu historique de fondation des Pères Blancs ici au Congo. Au Canada?
Oui. Bon, on a commencé à Québec, on va à la ville de Québec.
Voilà. Pas très longtemps après le grand déménagement à Montréal.
C'est ça.
Merci beaucoup et bon 150e à
vous. Merci.
Merci. Alors, je rappelle simplement que Vue d'ailleurs vous est présenté en collaboration avec Aide à l'Église en détresse, organisme international de charité catholique qui soutient les chrétiens persécutés, opprimés ou en situation de très grande pauvreté dans plus de 140 pays. Je veux remercier également Han Willins qui est à la régie. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.